Bien, alors on va reprendre le message sur Déborah. On n'est pas encore arrivé tout à fait là. Vous rappelez un peu ce qu'on a dit la dernière fois. La vie de Déborah se trouve dans le livre des juges. C'est un livre dur, une époque très ingrate, la plus sombre de la Bible, parce qu'en fait le péché est exposé de façon explicite. Il y a un commentateur qui avait dit ceci, « La pornographie est l'art de rendre le péché séduisant, mais le livre des juges le montre dans toute sa laideur, sous son aspect le plus repoussant. » Et c'est vrai, si vous n'avez pas trop le moral, je vous déconseille. Et Dieu qui perpétuellement tend les mains vers ce peuple rebelle et cède, attend sa repentance pour pouvoir l'aider, enfin, c'est assez triste. Et ils se repentent pas trop souvent, ils mettent parfois 20 ans, c'est long. On y voit aussi le déclin du peuple de l'Alliance qui, après toutes ces choses merveilleuses, hein, avec Moïse, avec Josué, s'éloigne de plus en plus des commandements de Dieu et des bénédictions de Dieu pour adopter quoi? Eh ben, les pratiques complètement perverses des peuples qu'il était appelé à supplanter. Et j'avais rappelé que, même en dehors de la Bible, on a tout un tas de témoignages de l'histoire des Cananéens qui étaient des gens extrêmement cruels. Vous imaginez des gens capables de jeter au feu des nouveau-nés, des petits-enfants pour apaiser le dieu Baal. On a envie de dire c'est un peuple qui mérite pas de vivre. Et c'est vrai que si on prend conscience de telles horreurs, on comprend pourquoi Dieu, même si je pense que sous la nouvelle alliance avec Jésus, ce serait différent. Mais n'empêche que sous l'ancienne alliance, Dieu leur demandait de chasser ces gens. Parce que trop, c'est trop. Et le péché de ces gens avait atteint son comble jusqu'à, vous vous rendez compte, offrir en sacrifice des petits-enfants. On a retrouvé des traces de ces sacrifices humains, donc ça vous le retrouvez dans les livres d'histoire. J'aime bien toujours vérifier dans les livres d'histoire pour vous dire des choses parfaitement vérifiées. Peut-être aucun autre livre de la Bible ne témoigne autant de la fragilité humaine. Malgré ça, on y voit des signes formidables de la compassion et de la patience de Dieu. Et je pense, si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, si vous doutez de son pardon, alors là, ça vaut le coup de lire les juges. Vous allez voir inlassablement, malgré toutes les horreurs qu'on y lit, la compassion et la patience de Dieu. Et sa fidélité à l'alliance avec son peuple. Lui, il demeure fidèle. Le peuple casse l'alliance et la recasse, et Dieu reste fidèle. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, pour avoir aussi le petit contexte géographique, à cette époque, le pays n'est qu'une association de villes. Ils viennent de prendre possession, plus ou moins bien, et de groupes, de tribus, ou de simples familles, unies. Ce qui les unit vraiment, c'est les liens à un même sanctuaire. Vous savez, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, avec un tabernacle mobile, c'était une tente. Tabernacle, ça veut dire tente, hein, qui était tantôt à Gilgal, tantôt à Silo, Mitzpah, Bethel. Jusqu'au règne de David, ça a été comme ça. Donc pendant ces 300 ans des juges, le tabernacle, il bouge. On le voit tantôt dans une ville, tantôt dans une autre, avec donc l'Arche de l'Alliance à l'intérieur. Et, mais c'est ça qui les réunissait, ce sanctuaire, et la lignée d'Aaron, la lignée des prêtres, hein, qui étaient des Lévites, qui donnent l'unité d'Israël. Alors vous vous souvenez qu'eux n'avaient pas eu de territoire, mais ils avaient des villes parsemées dans tout le pays. Et c'était important parce que ça leur permet d'être auprès des gens. D'où l'importance pour le peuple de la fidélité à Dieu. C'est la seule chose qui les réunissait. Et vous savez, je me souviens une fois, j'avais invité une voisine qui était athée. Elle avait fait le jour de l'an avec notre église à l'époque. On avait une fête pour le jour de l'an. Et elle avait regardé tous les gens qui étaient à table là. Et en sortant, elle m'avait dit, mais des gens aussi différents, qu'est-ce qui peut bien les réunir? J'étais contente. On n'est pas tous sur le même moule. Vous savez, les sectes, elles vous mettent dans un moule à gaufres là. Paf, paf, paf. Et on est tous pareils. Et ça, c'est terrible. Et j'étais très contente qu'elle me dise ça. Tous différents. Tous différents. On garde notre caractère, on garde notre caractère. Notre personnalité, Dieu veut changer notre caractère. Notre personnalité, etc. Dieu respecte, on est différents. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et ce qui nous réunit, c'est le Seigneur. Et vous savez, dans les familles, c'est pareil. Hein, si vous avez une famille qui s'élargit, qui grandit, qu'est-ce qui va bien pouvoir nous garder unis ? C'est le Seigneur. On est différent. Il arrive donc les pièces rapportées, comme on dit. Hein, et comment est-ce qu'on va rester unis? C'est le Seigneur. Vous savez, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Pourquoi il y a tant d'histoires, belle-mère, belle-fille, machin, etc. Il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment nous réunir. Hein, j'y pensais à Noël quand je regardais la famille réunie. Il n'y a que le Seigneur. C'est en lui qu'on trouve cette unité familiale. Si vous réfléchissez bien, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passait avec les tribus. Donc si ils arrêtaient la fidélité au Seigneur, c'était la débandade. Et on va le voir dans tout au long du livre des Juges. Ils se divisent, ils vont jusqu'à s'entretuer, ils s'encouragent à faire des horreurs. D'ailleurs, ces passages-là, je les commenterai pas, ils sont tout au bout du livre des Juges. C'est pénible de penser que des gens qui avaient connu la grâce de Dieu pouvaient se comporter comme ça. Horrible. Particulièrement les Lévites, en plus, à la fin des Juges. Alors, j'avais donc évoqué les derniers discours de Josué, où il rappelle l'histoire, il rappelle les choses, et il leur dit maintenant, vous vous souvenez comment il termine son discours, eh bien, choisissez qui vous voulez servir. Il veut que ce soit un choix conscient. Et ça, justement, c'est très important. Pour chacun de nous, choisir de suivre Dieu, c'est un choix. C'est un choix pour les enfants, c'est un choix pour les adolescents, c'est un choix pour les adultes. Ça ne peut pas être imposé. La foi n'est pas héréditaire. On dit Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Et donc ça veut dire aussi beaucoup de choses par rapport à nos enfants. Il faut les encourager à faire un choix. Et Josué était très clair. Il leur donne le choix. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et puis lui il dit bon, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et la réaction immédiate d'Israël, un peu comme Pierre, vous savez, dans le Nouveau Testament, c'est ok, témoin, on y va, on va servir l'Éternel avec toi, tous, on va te suivre. Et là, on assiste, donc on en était là la dernière fois, on voit que Josué est un peu inquiet. Il se dit, oulala, une réponse un peu rapide. Et vous vous souvenez ce qu'il leur dit, il dit, vous savez, ça va pas être facile hein, de suivre comme ça le Seigneur. Vous ne pourrez pas servir le Seigneur, Josué 24. Vous ne pourrez pas servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu à la passion jalouse. Et on avait expliqué la différence entre la jalousie constructive de Dieu et la jalousie protectrice de Dieu et la jalousie maladive. C'est deux choses tout à fait différentes. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez le Seigneur et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal, il vous exterminera après vous avoir fait du bien. Donc il les met en garde. Tout ce qui vous retient, tout ce qui peut vous permettre de vivre, c'est la fidélité à Dieu. Donc là, vous décidez comme ça sans réfléchir, mais vous n'y arriverez pas tout seul. Vous savez, il y a un verset de la Bible qui est très important. C'est « Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, même si cet homme, c'est nous-mêmes. » Peut-être encore plus si c'est nous-mêmes. « Et béni soit l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. » Parce que moi, on s'appuie sur soi, on s'appuie sur les autres. On est en danger. Parce que on est pécheurs, les autres aussi. Et donc... La seule solution, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et ça, faut toujours se le rappeler. Surtout, particulièrement dans l'Église. On ne peut pas vivre notre foi sur la carte bleue d'un autre chrétien, ou du pasteur, ou vous voyez, la carte bleue spirituelle, je veux dire. Hein. Non, pas question. Il est hors de question de faire... C'est pas de moi, hein, c'est John Wimber qui disait ça. Mais j'avais beaucoup aimé cette expression parce que c'est un peu ça. Malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Si vous vous appuyez sur un homme, si bon soit-il, ou une femme... Oh, mais les femmes, c'est différent. Je plaisante. Eh bien, un jour ou l'autre, vous êtes déçus et vous vous envoyez tout balader. Donc, c'est normal. L'être humain est décevant. On est nous-mêmes décevants par rapport à nous-mêmes. On vous dit, oh, mais comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu avoir cette réaction? Seigneur, j'ai honte de moi. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous arrivera un jour, ça. Mais donc, c'est toujours ça. Il faut bien toujours se dire, l'homme est décevant. On est décevant par rapport à nous-mêmes. Donc, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, c'est évident. Même la famille proche, même il y a rien, il y a que Jésus qui ne déçoit pas. Hein, donc malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme, béni soit l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. Et c'est pour ça que dans cette église, on insiste beaucoup sur le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, parce que rien ne peut remplacer ça, rien. Donc si vous vous attachez pas à Dieu, il leur dit, ben écoutez, ça va tourner mal pour vous et Dieu sera obligé de vous rejeter. Alors là, j'avais bien précisé que Dieu ne rejette pas comme ça, on fait que Dieu nous rejette. C'est l'histoire de la personne qui se noie et qui refuse la bouée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous n'avez pas d'autre moyen de l'atteindre, vous êtes impuissant. S'il prend la bouée et puis la balance parce qu'il en veut pas, qu'est-ce que Dieu peut faire? Je dirais, il fera tout ce qui est en ses moyens, mais s'il se heurte à notre refus, il nous forcera pas. Hein, je dis toujours, l'ennemi est capable de prendre possession de nous sans notre volonté, et il va tout faire, mais Dieu est gentleman. Si on a dit non, il respecte. Mais on en paye aussi les conséquences. C'est évident, hein. Je dis toujours, si on sort sans parapluie, sous la pluie, on sera mouillé. C'est pas Dieu qui va vous envoyer ça, c'est vous qui mettez pas le parapluie. Bon. Donc, il faut bien comprendre tous ces versets dans cette perspective. Bah, si vous rejetez Dieu, il vous exterminera après vous avoir fait du bien. C'est-à-dire, ça pourra pas aller. Et on comprend avec les façons de vivre des Cananéens. Et le peuple répète à Josué, non, nous servirons le Seigneur. Bon, c'était clair, il leur a bien fait redire les choses. Vous savez, c'est comme quand on dit, relisez votre contrat avant de le signer. Ils relisent, ils redisent, et Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même, car c'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. Ils répondirent, témoins. Et là, on s'était arrêté là, la dernière fois, la phrase de Josué qui m'avait choquée. Parce que qu'est-ce qu'il leur dit juste après? Supprimez donc maintenant les dieux étrangers qui sont en votre sein. Quoi? Ils le savaient. Comme quoi, hein. Supprimez déjà les dieux étrangers qui sont là. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Ils venaient de dire, ouais, on va suivre le Seigneur, on est témoins contre nous-mêmes, ouais, ouais, ouais. Il dit, bah, commencez par supprimer les dieux étrangers qui sont chez vous. Ça veut dire que quelque part, ils les avaient soit dans le cœur, soit peut-être même des amulettes, des machins cananéens, des petits porte-bonheur, des petits trucs de toutes sortes. Vous savez, à cette époque-là, il y avait toutes sortes de choses, hein. Et Jésus dit, bah, commencez déjà à vous débarrasser de tout ça. Plus, j'imagine, tout ce qui était dans leur cœur. Alors Josué, il est inquiet, je le comprends, parce qu'il veut pas d'une décision hâtive, vous savez, cette personne qui va s'engager sans calculer la dépense, sans considérer non plus les efforts à faire pour persévérer. Et ça, on le cache pas quand on fait les entretiens de baptême. Persévérer, c'est le plus dur, hein. Prendre des grandes décisions, se lancer, c'est bon, mais persévérer. La durée, le marathon, hein, c'est... Il prévient le peuple, donc il sera incapable de servir l'Éternel par ses propres forces. Il craint que l'Israël s'engage trop légèrement sans se rendre compte de ses propres faiblesses. Ils se rendaient même pas compte qu'ils avaient peut-être dans leur poche ou dans leur gypsière, je ne sais quel dieu ou quelle déesse se planquait dans un coin, plus le reste. C'est quand même terrible et je me dis, ma misère, on doit être comme ça aussi. Donc que Dieu nous éclaire. Parce que c'est sûr qu'on va pas pouvoir servir Dieu de tout cœur si on garde tout un tas de petites choses par derrière. Il y en a qui donnaient l'image d'une maison où il y a une pièce pour le Seigneur, puis les autres, no entry. Le Seigneur peut pas rentrer. Bon, ça pose des problèmes à la longue, hein. Donc la seule solution, c'est de s'appuyer sur le secours de Dieu et de rompre avec tout culte étranger. Josué est clair. Donc c'est pas une dictature, c'est le peuple qui choisit. Et il va être appelé à supprimer ces dieux étrangers, si petits soient-ils. Et c'est là qu'on voit que l'être humain est toujours le même. Vous savez, il y a 3000 ans qui nous séparent, un petit peu plus d'ailleurs, avec cette scène. Et puis l'être humain est toujours le même, fragile, incohérent, inconscient. On va vite proclamer nos choix, même si on sait qu'au milieu de notre cœur, il y a encore quelques idoles qui traînent. Et on a vraiment besoin. C'est là qu'on voit qu'on a tous besoin de la grâce de Dieu et de son aide. Sans quoi, on est mal parti. Puis bon, Josué fait une cérémonie officielle avec un monument témoin de cet événement. Et vous savez, il y a... Bon, là, on vient de fêter les 30 ans de l'Église. C'est vrai que c'est parfois nécessaire de faire des bornes, de marquer des endroits, des bornes, où, voilà, on en est rendu là. On a pris telle décision. C'est ce qui se fait avec les cérémonies, hein, mariage, etc. De marquer certains engagements. Et alors, il y a certains archéologues qui disent qu'on aurait retrouvé cette pierre taillée exactement à cet endroit-là. Malheureusement, il n'y a rien d'écrit dessus, bon, après plus de 3000 ans. Mais j'ai lu des textes d'archéologie qui disent qu'on a retrouvé une pierre, une très très grande pierre taillée, un peu en forme de colonne, qui est toute seule là. Et on pense que ça pourrait être cette fameuse pierre qu'ils ont posée là. Alors, on va arriver au début du livre des Juges, au chapitre 1. On va lire rapidement. Après la mort de Josué, les Israélites interrogèrent le Seigneur. Ah, ça c'est un bon début. Ils interrogent le Seigneur. Qui de nous ira le premier faire la guerre aux Cananéens? Et le Seigneur répondit, c'est Judas qui ira, je lui ai livré le pays. Judas dit à son frère Siméon, viens avec moi dans le lot qui m'a été attribué, nous ferons la guerre aux Cananéens. Et moi aussi j'irai avec toi dans celui qui t'a été attribué. Ah, bonne communion avec le Seigneur, bonne communion ensemble. Alors, quelle tribu va ouvrir la voie? Évidemment, c'est Judas, c'est pas un hasard. Vous savez, dans la Bible, il y a pas beaucoup de hasard, hein. Judas, parce que depuis la Genèse, depuis Jacob, c'était là tribu qui serait leader. Ça serait la tribu qui donnerait naissance au roi. C'est celle qui a donné naissance à, évidemment, David. Et c'est aussi Jésus et de cette tribu, tribu de Judas. Donc, tribu leader. Et c'est de cette tribu, donc, que devait venir le Messie. Il y en a qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'il a demandé à Siméon, monte avec moi? Est-ce que c'est parce qu'il avait la trouille? Non. Je pense qu'il assumait son rôle de leader. C'est-à-dire, il ouvre la voie et il entraîne à sa suite une autre tribu. Et le rôle du chef, on le voit là, parce que là, c'est un passage très positif. Le rôle du chef est de donner l'exemple pour entraîner les autres à sa suite. Et Judas a très bien compris ça. Là, ils sont encore vraiment dans la ligne du Seigneur. On le voit à toutes leurs actions. Il va ouvrir la voie. Eh bien, que tu viens avec moi, tu vas le faire avec moi. Et c'est ça le chef. Hein. Le chef, c'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qui entraîne. C'est pour ça que moi, je préfère le mot de leader, qui en anglais veut dire celui qui entraîne. Celui qui conduit, parce que c'est exactement ça dans la Bible, il donne l'exemple. Et là, Judas rentre parfaitement dans son appel. Il donne l'exemple, il entraîne à sa suite. Et naturellement, la victoire va être très importante, vous pouvez la lire après. Dieu va bénir la fidélité et l'obéissance et l'unité. Et un commentateur disait, lorsqu'un chef s'engage et que le peuple suit, la victoire et la bénédiction sont toujours au rendez-vous. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que, je sais plus, c'était le pasteur de Suisse, là, qui avait dit quelque chose qui m'est resté en tête. Une église qui travaille et qui est unie, rien ne peut s'opposer à elle. C'est pour ça que le diable passe son temps à nous laisser dans la passivité ou dans la division. Parce que c'est pas plus compliqué que ça. Pour que si l'église du monde entier, là, je parle plus large que nous, était unie, et active, on irait encore plus vite qu'au temps de Jésus, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas tous les moyens modernes, hein, d'impression, de voyage, etc. Donc, et c'est vrai, et j'ai longtemps réfléchi à ce qu'avait dit ce pasteur, une église active et unie, rien ne peut s'y opposer. C'est à condition qu'elle reste dans le Seigneur, évidemment, mais ça, c'était sous-entendu. Donc, Dieu va bénir la fidélité et l'unité. Ils travaillent ensemble, et là, vous allez voir, c'est victoire sur victoire. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est pas le but. C'est là aussi qu'on voit l'histoire du premier juge, Othniel. Voilà, les enfants l'ont sur leur feuille. Othniel, c'est O-T-H-N-I-E-L. Il va épouser la fille de Caleb. Alors, vous vous souvenez de Caleb, qui avait accompagné Josué. C'était un des deux espions qui était positif, qui avait la foi et qui a survécu aux 40 ans dans le désert. Et c'est la fille de Caleb qu'il va épouser. Il rentre pas dans n'importe quelle famille, ce sont des battants, et c'est lui-même un grand battant. Et puis, on va remarquer quelque chose d'assez important, c'est que Judas, après avoir entraîné Siméon, il va entraîner les Kéniens, ou Kénites. Et ces gens n'appartiennent pas au peuple d'Israël officiellement. C'est de la famille du beau-père de Moïse. Et ça prouve encore une fois, et j'aime bien repérer ces petits passages dans la Bible, parce que quand j'étais petite et que je lisais la Bible, j'étais toujours, mais après tout, les autres, ils existaient quelque part. C'est pour ça aussi que j'aime bien les chronologies, on a l'histoire de tous les peuples. Hein. Je crois que la vôtre, il y en a une des deux qui l'a. Parce que je me disais, mais alors les autres peuples, ils existaient pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils devenaient? Eh bien, chaque fois qu'ils acceptaient l'éternel Dieu d'Israël, ils pouvaient être inclus au peuple. Et ils pouvaient profiter des mêmes bénédictions. Et ça, souvent, on le remarque pas parce que faut chercher ces petits passages dans la Bible. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, les autres peuples n'étaient pas mis à l'écart. S'ils voulaient accepter le Dieu d'Israël, ils pouvaient. Et en fait, Dieu avait mis Israël pour que ce soit une lumière pour les nations, pour attirer les autres vers l'éternel Dieu. Ça transparaît pas toujours assez et il faut lire attentivement pour le remarquer. Alors, il y a un petit problème qui se pose, surtout avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Enfin, ça nous le pose quand même. Chaque fois, Dieu demande qu'on dépossède le pays, qu'on chasse les habitants, qu'on les tue, etc. Et nous, alors, pour des raisons purement humanitaires, on dirait non, c'est pas comme ça, même si c'est des peuples cruels, il fallait essayer de faire autre chose. Il faut vraiment se replonger déjà au fait que Jésus n'était pas venu, on n'était pas dans cette alliance de grâce. D'autre part, c'était des peuples qui avaient atteint un niveau de perversité et de pourriture morale inimaginable, ça vous le retrouvez dans n'importe quel livre d'histoire. On peut comprendre, même si nous on vit sous une autre dispensation, sous la grâce de Jésus, mais on peut comprendre que c'était le seul moyen. D'ailleurs, on va voir pourquoi après. Et on arrive à un moment où pour la tribu de Judas, il y a un endroit où ils n'ont pas réussi à gagner, Judas ne put déposséder les habitants de la vallée parce qu'ils avaient des chars de fer. Or, on va voir dans l'histoire de Déborah que les chars de fer, pour Dieu, ça pose aucun problème. Bon, je vous avais expliqué qu'à l'époque, Israël utilisait du bronze, qui est un alliage de cuivre et d'étain, qui était beaucoup moins solide que le fer. Et c'était un gros problème, très très gros problème, au niveau militaire, purement au niveau militaire. L'histoire de Caleb, après l'histoire de Caleb, on va voir l'histoire des sept tribus, des sept autres tribus. Elles sont pas toutes représentées. Autant pour Juda, il y avait un seul point négatif. On va voir que pour les autres tribus, il y a un seul point positif. Tous les autres, ils ont craqué, ils ont cédé, ils ont fait des compromis. Et ça, c'est ennuyeux, parce que ils ont fait des compromis à tous les niveaux. Ils ont commencé par faire des compromis en disant, bon, on va vivre avec eux, on va s'entendre. Puis après, ça a été les mariages. Et puis du mariage, on est passé à adorer les mêmes dieux, faire les mêmes sacrifices et arriver à la même civilisation pourrie et cruelle en quelques années. Et quand dans notre vie, on fait des compromis avec le monde, des alliances avec des gens qui rejettent totalement Dieu, même dans les affaires. Imaginez un chef d'entreprise qui va s'allier avec des gens qui n'ont aucune référence morale par rapport au chômage, par rapport à l'embauche, par rapport à... qui n'ont aucune référence morale, où la seule moralité, c'est mammon, l'argent. Pour un chrétien, ça va être de plus en plus difficile. Alors, où il va se laisser entraîner, et il va aller contre ses principes, corruption, etc. Ou alors, il va falloir rompre l'alliance. Et dans les affaires, c'est pas évident non plus. Hein. Donc, attention aux alliances dans les affaires. C'est souvent, on prie pour ça, hein, parce que c'est pas évident pour les jeunes chefs d'entreprise. Même parfois, quand on cherche un boulot soi-même, j'ai connu des chrétiens qui ont été obligés de quitter leur boulot parce qu'ils étaient obligés de mentir, de voler, de manipuler, de magouiller. Et au bout d'un moment, c'est pas possible. On est chrétien, on n'a pas les mêmes valeurs de fond et on peut pas vivre dans des compromis. Et c'est un sujet à réflexion. Mais les enfants d'Israël à cette époque, finalement, sont laissés glisser tout doucement d'une alliance à l'autre. Et ça a été de plus en plus difficile au niveau des victoires. De moins en moins de victoires sur les ennemis. Et on voit ce glissement au fil de l'histoire. Et ils ne purent pas, et ils ne dépossédèrent pas le pays, et ils ne purent pas posséder le pays. On arrive à un glissement. Et pourtant, les grandes victoires du passé sont la preuve qu'avec l'Éternel, le problème n'est pas une question de char de fer, n'est pas une question de puissance. Si Dieu promet la victoire, on a la victoire, personne ne peut s'opposer à Dieu. C'est pour ça que souvent, quand on prie pour des problèmes de travail ou d'autres, on demande, Seigneur, si tu ouvres la porte, on sait que personne ne la fermera. Si tu fermes la porte, c'est pas la peine qu'on essaie de l'ouvrir. Hein? Souvent, on prie comme ça parce que c'est vrai. C'est pas les chars de fer qui impressionnaient Dieu. Vous allez voir avec Déborah ce qu'il en a fait, des chars de fer. On avait déjà vu ce qu'il en a fait avec les Égyptiens. Donc, le compromis, les alliances, on renversait pas les autels des dieux étrangers, on cherchait à faire la paix avec les ennemis. On cesse le combat en pensant qu'on aura une sécurité un peu illusoire. Et c'est cet esprit un peu calculateur qu'ils ont développé. Oh ben, on va faire la paix avec eux, on va s'arranger, on va faire des alliances. Et ça va se renforcer pendant 3 siècles. Et parallèlement à ces alliances qui se renforcent pendant 3 siècles, vous avez la décrépitude morale et spirituelle du peuple. Et on arrive à la fin des juges, à des trucs horribles. Si vous avez le courage, si vous avez encore un peu de morale, lisez-le, priez après. Vous allez voir la décrépitude dans laquelle ils sont tombés. Le compromis religieux, en fait, c'est le thème majeur du livre, la désobéissance envers l'Éternel. Et au chapitre 2, vous allez voir que Dieu leur dit quelque chose de très très important, on va le lire. Le messager du Seigneur monta du Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Et il a tenu parole, jusqu'à aujourd'hui. « Quand vous ne conclurez pas d'alliance pour les... quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. » Sachant qu'il y avait des sacrifices humains. « Pourquoi avez-vous fait cela ? Mais vous ne m'avez pas écouté, pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, ils seront à vos côtés, leurs dieux seront un piège pour vous. » Et lorsque le messager du Seigneur eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à sangloter, ils appelèrent ce lieu du nom de Bokim, les pleureurs, et ils offrirent là des sacrifices au Seigneur. Moi, c'est bien gentil, ça, mais ça mène où? Moi, Stex, il m'a choqué. C'est bien de pleurer, mais ça mène où? Ils ont pleuré. Oh, c'est vrai. Ils ont pleuré sur leur faute, mais je pense qu'ils étaient sincères. Je veux dire, c'est pas du bluff, hein. Mais est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Alors attention, parfois on pense que, ah bah oui, bah cette personne, elle a vraiment pleuré sur ses fautes, sur ses péchés. Et alors? C'est bien, c'est un début, mais il faut changer, hein. Celui qui cache, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, c'est-à-dire ses fautes, hein, ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, c'est le premier point, et les délaisse, obtient miséricorde. Mais le problème, c'est qu'ils se sont contentés d'avouer. Oui, c'est vrai. On pleure. Ils ont pleuré sur leur faute. Mais ils ne se sont pas détournés de leur faute. Et on va voir après qu'ils ne se sont pas détournés. Et c'est toute la différence, et j'étais contente que Thierry, que Rémi en parle ce matin, entre la culpabilité et la repentance. C'était très bien ce que tu as dit. Je dis, tiens, on croirait qu'il a lu mon texte. Culpabilité différente de repentance, j'avais écrit. La culpabilité, elle vous écrase. J'ai péché, Seigneur. J'ai commis des fautes, c'est affreux, c'est noir dans ma vie, etc. Elle vous écrase, elle vous écrase. Mais après, il y a la repentance. Seigneur, maintenant, je me détourne de ça. Je vais vivre autre chose avec toi. Je suis assurée que tu me pardonnes. Et la repentance, comme disait très bien Rémi, elle amène la joie. Je suis débarrassée, ça y est, je sais que je suis pardonnée. La culpabilité, elle va vous garder sous le poids du péché. Ça peut durer toute une vie. Moi, je connais des gens qui restent toute une vie sous une culpabilité. Elle est réelle, la culpabilité, et ils ont raison d'en être tristes. Mais il faut pas s'arrêter là. Après, il y a la joie. Seigneur, je t'ai demandé pardon, maintenant je vais vivre autre chose. Est-ce qu'on peut par nos propres forces? Non. C'est là qu'on a besoin de la force du Seigneur. Pour accepter l'assurance qu'on est pardonné et pour avoir cette joie. Oui, Dieu m'a pardonné. Oui, j'ai de la valeur à ses yeux. Oui, maintenant je peux vivre dans la joie. Vous voyez la différence, hein? Et dans notre monde, pourquoi les Français prennent tant de tranquillisants? Parce qu'ils connaissent la culpabilité, mais pas la repentance. Ils n'arrivent pas à rentrer, à dire, je crois que Dieu est capable de me pardonner, je crois que Jésus est venu sur la croix pour pardonner mes péchés, je suis débarrassée de cette culpabilité maintenant, j'ai confessé mes fautes, je sais que Jésus me pardonne, et là je peux vivre dans la joie. N'importe quel psychologue d'ailleurs comprend très bien ce processus, mais voilà, il l'enseigne pas. Voilà, donc on rentre dans ces pleurs et on voit pas grand-chose qui change. Puis là on parle de la mort de Josué. Et on a un texte absolument magnifique. Le peuple servit le Seigneur pendant tous les jours de Josué et tous les jours des anciens qui survécurent à Josué. Alors attention, ils vont servir le Seigneur tant qu'il y a encore Caleb, Othniel, tous ces gens qui savaient ce qu'ils voulaient et qui savaient ce que Dieu voulait. Ceux qui avaient vu toute la grande œuvre que le Seigneur avait accomplie pour Israël. Josué, fils de Noun, serviteur Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit. Voilà. Toute cette génération fut elle aussi réunie à ses pères, et il se leva, et ça c'est important, après elle, une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Ah, ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas touché, ils n'avaient pas vécu, ils n'avaient pas de relation personnelle avec Dieu, comme Josué, comme Caleb, comme beaucoup d'autres. Et donc, cette génération, vous avez le verset immédiatement suivant, donc 2:11, les Israélites firent alors ce qui déplaisait au Seigneur. Ils se mirent à servir les Baals. Non, mais c'est pas vrai. Eh oui, parce qu'ils n'avaient pas cette relation avec Dieu qu'avaient Josué et Caleb. C'est pour ça que dans les églises évangéliques, on insiste sur la relation personnelle avec Dieu. Si vous ne l'avez pas, vous finissez forcément par servir les Baals, par servir toutes sortes d'autres choses qui déplaisent à Dieu et qui vous rendent malheureux, c'est ça le pire. Ils se mirent à suivre d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils abandonnèrent le Seigneur et se mirent à servir le Baal et les Astartés. Alors, il y en a qui vont dire, mais on peut très bien abandonner la foi, abandonner le Seigneur, sans pour autant être asservi à toutes ces divinités, à tous ces péchés. Enfin, Baal et Astarté, c'est le symbole de tout un tas de choses. Eh ben, non. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse, disait Jésus. Et quand on abandonne le Seigneur, tout doucement, c'est comme un toboggan. Un toboggan pas trop rapide. Pour pas qu'on s'en rende compte, mais plus on abandonne le Seigneur, plus on glisse vers des choses qui sont pas justes et qui vont nous faire du mal. Et le Seigneur se mit en colère contre Israël, il les livra aux pillards. Hein, ils ont voulu mettre leur confiance dans ces hommes-là, qui étaient franchement pervers. Eh bien, ces hommes-là les prennent en main. Ils ont remis leur sort dans les mains de ces gens-là, et ces gens-là vont les prendre en main. Ils vont les piller, ils vont profiter d'eux, et ils ne purent plus tenir devant les ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, parce qu'ils ont quand même essayé de se battre, la main du Seigneur était contre eux pour leur malheur, comme le Seigneur l'avait dit. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Alors, à propos de la nouvelle génération, je voudrais lire tout de suite pendant qu'on y est, ce que dit le Seigneur. Voilà. Le Seigneur, c'est au verset 20, se mit en colère contre Israël. Il dit, puisque cette nation a passé outre à mon alliance, l'alliance que j'avais instituée pour ses pères, qui ne m'ont pas écouté moi, je ne déposséderai plus devant eux aucune des nations que Josué a laissées quand il est mort, afin de mettre par elle Israël à l'épreuve, pour voir s'ils veilleront ou non à suivre la voie du Seigneur, comme leurs pères ont veillé. Et un petit peu après, ce fut uniquement, donc chapitre 3, verset 2, ce fut uniquement pour que les générations que des Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connu auparavant. Alors ça, c'est important parce qu'une autre génération se lève qui n'a pas une connaissance personnelle de Dieu. Elle sait tout ce qu'on lui a raconté, mais elle ne connaît pas Dieu. Et là, il y a eu un problème de transmission. Comment est-ce que les parents n'ont pas veillé à transmettre? Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va pourtant trouver ça dans le Deutéronome, dans le Lévitique. Vous en parlerez quand vous serez en voyage, vous en parlerez quand vous mangerez, vous en parlerez. La transmission qui se fait, on raconte aux enfants, on les imprègne du message de ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas eu visiblement de transmission. Et Dieu dit, eh bien, je vais laisser les ennemis pour que cette génération connaisse et apprenne la guerre. Qu'elle voit un peu ce que c'est par elle-même. Sachant que toute guerre suppose que Dieu a annoncé la victoire, on combat, et derrière on aura la victoire, mais avec le Seigneur. Alors, moi je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite parce que ça m'avait vraiment frappée. À l'époque, on avait beaucoup de préados dans l'église, un énorme groupe. Et je me disais, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut transmettre à ces préados? Certains n'avaient pas un message de transmission très clair dans leur famille. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut leur transmettre la foi? C'est pas évident, hein, transmettre la foi. Des enfants, ça passe, mais aux préados, c'est autre chose. Et je me souviens très bien, j'étais assise chez moi, en train de prier. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me montres quelque chose. Je savais pas du tout ce que le Seigneur allait me dire. Et il m'a amenée vers ce texte. Et ce que j'ai reçu dans ma tête, c'était, il faut qu'il soit conscient des enjeux. Des enjeux, quels enjeux? C'est quoi les enjeux? J'ai relu ce texte, hein. Le Seigneur a laissé des peuples autour d'eux. Ce fut uniquement pour que les générations d'Israélites connaissent et apprennent la guerre, ceux du moins qui ne l'avaient pas connue auparavant. Qu'ils connaissent et apprennent la guerre. Qu'ils connaissent les enjeux. Et les choses ont commencé à se mettre en place dans ma tête, tout doucement. Ça a pris du temps. C'est que la foi devient intéressante pour un préado si on connaît bien les enjeux. Pourquoi on croit? Et on croit dans quel but? Et ça nous apporte quoi? C'est ça, la guerre du quotidien. C'est une idée philosophique, vous savez, on leur embourre le crâne à l'école, faut voir en philo, hein, il y en a la moitié qui dort, j'en fais partie d'ailleurs. Et c'est pas évident, hein. Mais Jésus, c'est pas une idée philosophique, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, qui a fait couler du sang, du vrai, hein. Je vois l'écœurement des Français choqués devant le film de Mel Gibson. Oh, il y avait beaucoup de sang. Comme si leurs enfants n'en voyaient nulle part ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais ça, c'était la réalité. Bon, il en a peut-être ajouté quelques grammes de plus, mais c'était la réalité, elle était là. C'est qu'il payait dans sa chair et dans son sang nos péchés. Et le sang, c'est du sang. Ça coule et c'est moche et ça fait peur, etc. Et les enjeux, ils sont là. Les vrais enjeux, ils sont là. Et c'est marrant que les Français étaient choqués qu'on montre les... Oh, houhou. Ils ont joué les gros choqués, alors que franchement, quand on voit ce qui passe à la télé, on se pose des questions. Mais parce que je pense que ça touchait quelque chose de profond. Ça touchait quelque chose de profond. Les enjeux, ils sont là. Et il faut que nos préados soient conscients des enjeux. C'est-à-dire, la vie n'est pas neutre. Alors Samuel, alors c'est dommage, j'aurais dû lui demander de le repasser s'il l'a encore. Ce merveilleux petit clip que tu avais eu à l'école, à Grenoble, où on voit les globules blancs qui sont prêts à dévorer c'était un microbe ou un virus qui passait dans le sang. Hein, c'était très drôle, mais c'était véridique. Et donc, à l'intérieur de notre corps, c'est la guerre permanente. Ah, là, je vais décevoir notre pauvre Kevin. C'est la guerre, on ne peut pas l'éviter. Et notre sang passe son temps à se défendre. Et un jour, il faut que Samuel vous la repasse, qu'il y en a qui l'ont certainement pas vu, je ne sais pas ceux qui s'en souviennent, c'était très drôle, on les voit. Comment ils arrivent sur le microbe, et après on l'entend digérer le microbe. Ça, je crois que c'est du bruitage, par contre. Mais dans notre sang, il y a cette guerre permanente. Et on ne peut pas nier que nous, chrétiens, on est en guerre. Et vous, les enfants et les préados, vous le savez très très bien. Seulement, vous aimeriez bien parfois que ce soit la paix, qu'on fasse une petite paix avec le monde un peu, hein. Ce serait tellement plus agréable. On n'aurait pas de choix à faire. Eh ben non, c'est la guerre, il faut faire des choix, vous pouvez pas y couper. Et c'est important que vous le sachiez. Et si on vous laisse croire que la vie est rose, facile, et que tout est bon parce que le Seigneur est avec nous, amen, c'est pas vrai. C'est la guerre. Autant que dans votre sang, c'est la guerre, autant dans votre vie, c'est la guerre. Et comme j'expliquais, parce qu'on a donc enseigné à Lille sur la famille, Dieu a un plan pour votre vie. C'est vrai pour les adultes aussi. Heureusement. Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable aussi. Et il existe. Alors bien sûr, c'est pas le petit bonhomme avec sa fourche et tout ce que le Moyen-Âge a bien voulu nous dessiner. Puissance réelle du mal, personnage plutôt épouvantable. Et il a un plan aussi, c'est un plan de destruction. Je priais pour quelqu'un ce matin justement pour que les plans de destruction de l'ennemi ne jouent pas sur ses études. Parce que ça aussi, ça en fait partie. Que ce soit sur vos études, sur votre vie sportive aussi, sur n'importe quoi que vous faites. S'il peut vous casser, il va vous casser. Et ça, c'est important que vous le sachiez. Alors, bien sûr, il ne faut pas devenir paranoïaque, hein, et puis se dire, oh là là, je suis attaqué de toutes parts. Non, parce que la victoire est en Jésus, et Jésus veut vous apprendre justement, vous avez vu, qu'est-ce qu'il veut apprendre, qui n'ont pas connu les guerres, ce fut uniquement pour que les générations connaissent, donc là, je vous dis, connaissez, et apprennent. Ben, il faut apprendre à se battre. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie, parce que vous savez, les vieux, parfois, ils n'ont plus envie d'apprendre, mais vous, au moins, vous êtes à un âge où ben, vous êtes prêt à apprendre à vous battre. Et soyez courageux. Battez-vous et vous aurez le dessus parce que Dieu est avec vous. Si vous vous battez pas, je peux tout de suite vous dire comment ça va se terminer. Il se passera rien, vous serez écrabouillés. Voilà. Donc ça, c'est très très important et c'est ce qu'on va voir dans la suite de l'histoire avec Déborah. Alors, il y a un commentateur qui a remarqué quelque chose de très bien, qui l'appelle, et là, vous les avez sur vos papiers, les enfants, écoutez bien, le cycle des trois R. Vous voyez que dans le texte là, on nous dit, chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main du Seigneur était contre eux, ils furent ainsi dans une grande détresse. Le Seigneur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient, mais même leurs juges, ils ne les écoutèrent pas. Ils se prostituèrent avec d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivie leur père. Et lorsque le Seigneur leur suscitait des juges, le Seigneur était avec le juge, les délivrait de la main de leurs ennemis, etc. Et puis ça recommence tout le temps. Mais à la mort du juge, ils recommençaient à se pervertir, en se mettant à suivre d'autres dieux pour les servir, etc. Et on va voir ce cycle, là je vais un peu vite, des trois R. Qu'est-ce qui se passe? La révolte, la rébellion. Bah, tout va bien, hein? On va suivre les autres dieux, on fait des alliances avec eux. Révolte ou rébellion, premier R. Vous mettez sur vos papiers révolte ou rébellion. Le deuxième, bah, c'est la ruine. Quand on se révolte contre Dieu, on rejette la bouée qu'il nous envoie, bah, c'est la ruine. On sort sans parapluie, on est mouillé. C'est la ruine. Et puis, du coup, au bout d'un certain temps de ruine, ça pèse lourd, hein. L'oppression, vous savez, je sais pas comment c'était l'oppression des Cananéens, mais ça devait pas être drôle, hein. Vous savez, c'est des gens qui coupaient les membres comme ça pour vous humilier, les doigts, les pieds, que genre couper les mains et les pieds des gens pour s'ils survivent, bah ils peuvent rien faire de leur vie, c'est marrant. Ça... C'était des gens d'une cruauté, vous imaginez pas ce que j'ai lu. Je peux pas tout vous raconter, c'est horrible, ça fait des cauchemars. Donc être opprimé par des gens comme ça devait pas être triste. Hein. Donc au bout d'un moment, ils étaient quand même devant le nez dedans et ils criaient « Seigneur, au secours, on te demande pardon, on s'est détourné de toi, on veut sortir de là. » C'était la repentance. On va parler ce matin. Donc révolte, rébellion, ruine. Repentance. Et quand les enfants de Dieu criaient à leur Dieu, c'est là qu'on voit que Dieu, lui, il était fidèle à son alliance. Il aurait pu dire, c'est la dixième fois que vous me faites le coup. Maintenant, débrouillez-vous. Non. Dieu est incroyablement fidèle. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui touche le cœur. Je sais pas si nous, on aurait cette persévérance. Hein, si on avait une petite ville ou un petit, on était responsable, je sais pas, d'un petit village et que les gens se retournent contre nous comme ça périodiquement. Une fois, deux fois, ça va. Trois fois. Eh ben, Dieu garde cette même fidélité et il va leur envoyer un homme pour les aider à s'en sortir. Alors ça a été Othniel. On va voir les noms tout à l'heure. On va les donner tout de suite. Othniel, ensuite Ehud, E-H-O-U-D, Déborah, Gédéon. Et puis là, on arrive dans une période où le péché va croître encore plus. Oui, merci. Et il y aura même plus de temps de repos. Abimélec, Jephté, Samson. Samson, c'est une catastrophe. Et là, il y aura même plus de repentance. Plus de repos, plus de repentance. Et là, c'est vraiment la décrépitude totale. Donc, Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon. Donc, il leur envoie des hommes pour essayer de les ramener au Seigneur. Rédemption. Et là, ils ont la victoire. Les ennemis sont chassés. Dieu fait des choses impensables. Vous allez le voir avec Déborah. Et puis, tout va bien. Ils ont 40 ans de repos. Avec Othniel, ils ont même une double bénédiction. Ils ont eu 80 ans de repos. Sympa. Et puis, c'est fini. Ils retombent. La routine habituelle, quoi. Au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout va bien, les ennemis sont loin. Eh ben, on retombe et on recommence à se révolter contre Dieu. Après tout, on n'a pas besoin de ce Dieu, tout va bien. Hein? On appelle Dieu quand ça va pas, mais quand tout va bien. Et ça recommence le cycle. Révolte, ruine, repentance, rédemption, repos. Et voilà, ça va tourner comme ça. Et ce qui est curieux, c'est que l'auteur des Juges, quand il écrit son livre, il en est parfaitement conscient. Il avait vu clair dans ses cycles répétitifs. Ça, c'est étonnant, hein? Parce qu'il était quand même, bon, bien sûr, c'était à la fin de ses 300 ans, mais il avait vraiment du discernement. Dieu, lui, garde son alliance. Il envoie toujours un libérateur. Et vous allez voir tout au long de ce temps, l'endurcissement d'Israël s'accroît au fil des années. Alors, nous, heureusement, on va étudier Déborah. C'est encore dans la bonne période où ils sont un peu endurcis, mais pas complètement comme avec Samson. Avec Samson, ils vont même plus repentir. Ils vont même livrer le juge à la justice. Bon. Alors, les juges sont les personnages clés du livre, évidemment, porte le nom. Et c'est la note positive. Ce sont des chefs du peuple. Alors, n'imaginez pas des juges avec leur perruque, là, comme en Angleterre. Ce sont des chefs, parfois judiciaires, mais ce sont aussi des chefs militaires, des libérateurs que Dieu envoie et qui ont quelque chose de particulier sur eux. Ils sont pas capables de réformer durablement le cœur des hommes, mais ça Dieu le sait, et il leur en tient par rigueur. Ce n'est pas leur faute si le peuple continue à pécher. Ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font ce que Dieu leur demande de faire. Ce sont des gens comme vous et moi, et même quelquefois plus faibles que vous et moi, vous allez voir. Ils disent que déjà Ehud était gaucher, ce qui à l'époque était une tragique parce qu'il fallait porter l'épée à la main droite. Mais ça lui a bien rendu service. Dieu se sert même des faiblesses. Vous allez voir avec Ehud, il était gaucher, c'est ça qui lui a permis de sauver sa peau. Donc c'est un problème pour Israël qui refuse de suivre les juges que Dieu envoie. Alors au début il les suit, puis plus le temps va passer, moins il va les suivre. Le ministère des justes se limitait pas à la libération politique, mais ils étaient appelés à être des modèles pour le peuple, comme on a dit tout à l'heure. Donc le premier, Othniel, de la tribu de Juda, ça signifie « Dieu est puissant ». Je pense que vous avez le petit... Ou « lion de Dieu ». Et c'est vrai, ça a été un lion de Dieu. Et dans cette période, on voit que c'est Dieu qui est devant. Sans Dieu, le juge ne serait rien. Sans le juge, la rédemption pourrait pas se faire. Mais l'Esprit de l'Éternel est sur ce juge, sur cet homme... Et c'est un homme parmi les plus fidèles de la nation. Il exerce la justice divine, effectivement, en chassant les coupables. Le deuxième, ça sera Ehud. Et là, l'accent va être porté, après être porté sur Dieu, davantage sur le juge. Ici, le rôle fondamental du juge est souligné. Il s'arrange pour être seul avec le roi ennemi et il va simplement le transpercer de son épée. Les gardes n'avaient pas remarqué, il n'avait rien au côté droit, évidemment, parce qu'en fait, il l'avait caché sous ses vêtements au côté gauche, puisqu'il était gaucher. C'est ce qui lui a permis de passer les contrôles. Il a le soutien massif du peuple, et ça a été la base d'une bénédiction particulièrement abondante, parce que c'est lui qui va avoir 80 ans de repos. Moi, je me suis trompée, j'ai dit Othniel tout à l'heure, c'est Ehud. Sans Dieu, il aurait échoué, parce que vraiment, arriver jusqu'au roi pour le tuer, c'était pas évident. Mais c'est Dieu qui va lui permettre de surmonter les obstacles. Le peuple est totalement solidaire derrière lui. Ça marche. Et ce qu'on remarque dans cette histoire, c'est un calme incroyable. Il était vraiment, vraiment cool. Hein. Parce que passer les différents barrages, aller jusqu'au roi, lui dire « j'ai une parole de Dieu pour toi », il le tue et il sort. toute la stratégie, en fait, de cette histoire repose sur les impressions des gens. Les gens avaient l'impression qu'ils n'avaient pas d'épée. Les gens avaient l'impression qu'il était tout seul. Enfin, il était aidé par la puissance de Dieu. Le roi avait l'impression qu'il allait vraiment lui apporter quelque chose, etc. Le troisième juge, c'est Shamgar. Shamgar. Il a une arme toute simple. C'est un aiguillon à bœuf pour faire avancer les bœufs. Une longue tige de fer, et avec ça, il s'est battu et il a remporté des grandes victoires. Ça fait penser à la mâchoire d'âne de Samson. Et c'est là qu'on voit, on repense à ce verset, ce sont les choses faibles du monde qui triomphent, parce qu'il y a la puissance de Dieu derrière. Dieu se sert des choses faibles du monde comme tout. On est faible, on est fragile, mais Dieu se sert de nous. Et on va arriver, malheureusement, on n'aura pas pu le commencer encore aujourd'hui, au récit de Déborah. Et là, à cette époque, une femme, c'était un être faible qui devait toujours dépendre de quelqu'un. Son père, son frère, son mari. Si elle était veuve, c'était la famille qui la prenait en charge. Comme me disent parfois mes élèves, « Mais madame, pourquoi elle n'allait pas travailler dans un bureau ?» Ben tiens, en cinquième, c'est pas permis quand même. Ben oui, elle pouvait pas. Les seuls métiers qu'elle pouvait faire, c'était potier, tisserand ou cultiver la terre. C'était pas simple pour vivre. Et les femmes étaient donc exposées. Et Dieu va se servir pour le troisième juge d'une femme. Alors, ceux qui disent que la Bible est misogyne, relisez l'histoire de Déborah. On va la travailler ensemble. Une femme absolument extraordinaire. Le peuple est passé par ce fameux cycle. Et quand elle se lève, on en est donc au cycle de rédemption, où Dieu va lever une femme pour les sauver. Voilà. Donc, on va reprendre la prochaine fois. Je suis désolée, j'étais un petit peu longue, comme d'habitude. Mais retenons cette chose, que Dieu se sert des choses faibles. Dieu est patient et retenons aussi que la repentance vaut mieux que la culpabilité. Et qu'il y a un espoir chaque fois qu'on se repent. Il y a un espoir de joie. On l'a vu ce matin et je crois que c'est pas un hasard que ça corresponde à ce que j'avais à dire. La joie du Seigneur est pour ceux qui se repentent, qui changent de vie. Et ça a été le cas pour le peuple. D'ailleurs, vous allez le voir. C'est dommage qu'on n'en était pas rendu là. Déborah va avoir un chant après la victoire qui est resté. D'ailleurs, il est écrit, paraît-il, je connais pas l'hébreu, mais d'après les commentateurs, en très très vieil hébreu, parce que c'est un chant qui était conservé dans sa langue d'origine. C'était un chant de victoire extraordinaire. Après que tous les chars de fer étaient détruits, vous allez voir comment, je vous le dis pas. C'est extraordinaire la joie qui vient avec la rédemption de Dieu, avec le salut. Hein. Et on va prier que Dieu nous garde cette joie dans le cœur. Seigneur, merci pour ta joie. Merci parce que la joie de l'Éternel est notre force. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes quand on dépose nos fardeaux à tes pieds, quand on demande pardon pour nos fautes. Merci Seigneur pour le soulagement, pour la joie extraordinaire d'être accepté par toi. Merci Seigneur pour ta patience. Seigneur, cette patience, cette fidélité, malgré tous ces cycles par lesquels on passe nous aussi, de rébellion, de colère, de rouspétance, Seigneur, merci pour tes bras toujours tendus vers nous, pour ta patience, pour ton pardon. Seigneur, on ne pourra jamais te remercier assez pour le sacrifice de Jésus qui a tout donné pour nous. Que vraiment tu nous gardes dans cette joie du salut, Seigneur. Amen.